Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Nicole Belloubet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés, pour vous interroger, Alexis Brézé du Figaro.
Bonjour,
bonjour Alexis. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour,
bonjour
Adrien. Vous retrouverez vos rubriques habituelles. La question en plus, ce sera Cécile Marcel, directrice de l'Observatoire international des prisons, qui vous interpellera, Nicole Belloubet. Et bien sûr, question nette en fin d'émission avec Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL. Vous pouvez réagir en direct, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux. Hashtag Le Grand Jury. Alors, Nicole Belloubet, dans une récente interview à nos confrères de Paris Match, vous confiez votre rêve d'enfant devenir cosmonaute. La vie vous a finalement projeté dans le monde politique, mais un monde qui peut être aussi périlleux qu'un saut dans l'espace en atteste, par exemple, la réforme que vous portez de la justice des mineurs, les fameuses ordonnances de 1945. Votre projet, présenté mercredi en Conseil des ministres, fait déjà l'objet de critiques autant des policiers qui vous accusent de laxisme que des professionnels de la jeunesse qui vous reprochent de céder à une vision sécuritaire. Nous en parlerons bien sûr dans cette émission.
C'est donc qu'il est équilibré.
Peut-être, c'est le en même temps que vous défendrez peut-être. Acrobatique aussi votre mission, Nicole Belloubet, quand il s'agit de défendre les magistrats à l'origine des multiples affaires politico-judiciaires qui, cette semaine, ont marqué l'actualité et concernent directement les plus proches d'Emmanuel Macron, à commencer par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Périlleuse, enfin, votre tâche, quand vous êtes vous-même mise en cause sur votre probité, c'est l'accusation lancée ce matin par Jean-Luc Mélenchon dans les colonnes du journal du dimanche. Et c'est la première question de cette émission, elle vous est posée par Adrien Gindre.
Puisqu'effectivement, à une semaine de son procès, Jean-Luc Mélenchon a fait sa rentrée politique et il vous cible chez nos confrères ce matin. Il vous qualifie d'incapable. Il vous en veut en particulier pour l'absence d'ouverture d'enquête sur la violation du secret de l'instruction. Et il a une petite idée, effectivement, puisque d'après lui, c'est lié au fait que vous auriez peur de vos subordonnés, peur depuis que vous avez omis dans votre déclaration de patrimoine de déclarer une maison et deux appartements. Nicole Belloubet, est-ce que vous avez peur et qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon?
Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont absurdes. Ils sont même indignes, non pas me concernant, puisque ce n'est pas une difficulté, je vous répondrai dans quelques instants, mais en ce qu'ils attaquent les magistrats et en ce qu'ils mettent en cause et leur probité et leur indépendance. Ce sont vraiment des propos indignes. Il me semble que Jean-Luc Mélenchon, il est dans l'invective, il est dans le fantasme, il est dans le complot. Alors je sais bien que le complot, c'est quelque chose qui est tristement partagé de nos jours, mais en tout cas, ce n'est pas pour moi ce que je veux pour notre démocratie.
Mais il vous cible, vous, Nicole Belloubet.
J'y viens dans un instant. La démocratie, Jaurès disait qu'il faut avoir le courage de chercher la vérité et de la dire. C'est ce que font les magistrats et c'est ce que je veux faire à côté d'eux. Je crois que Jean-Luc Mélenchon fait l'inverse de cela. Il profère des insinuations, des invectives. Il est dans cette idée du complot et je crois vraiment que c'est une erreur grave.
Est-ce que vous allez porter plainte ou...
Non, pas du tout. Alors, pour ce qui me concerne, pas du tout.
Mais parce qu'il vous accuse encore une fois sur cette déclaration de patrimoine. Que lui répondez-vous sur ce point ?
Je réponds quelque chose d'extrêmement simple. Comme vous le savez, les élus, les ministres font devant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des déclarations d'intérêts, des déclarations de patrimoine. J'en ai fait plusieurs puisque j'ai été élue et j'ai été nommée ministre. Dans la dernière déclaration, j'ai oublié de mentionner ces biens. J'ai effectué une rectification et la HATVP a considéré...
La Haute Autorité de la Vie Publique.
Oui, la Haute Autorité de la Vie Publique a considéré que les choses s'en arrêtaient là. Je dois d'ailleurs dire également que, comme tous les ministres, nous faisons l'objet, au moment de notre nomination, d'un contrôle fiscal. Et ça a été le cas pour moi, comme pour tous mes collègues. Et l'administration fiscale, en effectuant ce contrôle, s'est aperçue que j'avais effectué un trop-perçu à l'égard de l'État.
Alexis Brézé.
Oui, Mélenchon dit qu'il est l'objet d'un acharnement politique et judiciaire incroyable. Il en veut pour preuve le dispositif qui a été mis en œuvre lors de la perquisition qui a visé lui, tout un tas de ses proches, etc. Il dit on n'a jamais fait ça pour personne, on n'a pas fait ça pour Bayrou, on fait ça que pour moi. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Encore une fois, les magistrats, le juge de la liberté et de la détention qui a ordonné la perquisition, ils sont libres des choix qu'ils font. Si plusieurs lieux qui sont liés à la France insoumise ont été perquisitionnés, c'est parce que les magistrats ont considéré, dans la recherche qui concernait Jean-Luc Mélenchon et pas lui seulement d'ailleurs, hein, la France insoumise également, ont considéré qu'il fallait perquisitionner plusieurs lieux. Je n'ai aucune observation à faire là-dessus.
Oui, mais dit aussi, mais depuis, j'ai pas été entendu par le juge, j'ai évidemment pas été mis en examen. Mais vous savez, donc c'est la preuve qu'on a monté cette affaire
de meurtre politique.
Ces propos sont inacceptables. Ces propos sont inacceptables. Moi, je redis deux choses et je vous répondrai à l'instant. Les propos de meurtre politique sont inacceptables. La justice n'est pas instrumentalisée à des fins politiques. Moi, en tant que garde des Sceaux, j'ai deux rôles. Et deux rôles majeurs. Un, de définir, comme le dit l'article 20 de la Constitution, une politique pénale votée par le Parlement et la faire appliquer. Évidemment, par l'ensemble des procureurs, les magistrats du siège étant indépendants. Ça, c'est mon premier rôle. Voyez-vous, par exemple, nous nous inscrivons dans la lutte contre les stupéfiants, dans la lutte contre la fraude fiscale, etc. Ce sont des directives de politique générale. Mon deuxième rôle en tant que garde des Sceaux, c'est de donner à nos magistrats les moyens d'exercer leurs fonctions, les moyens budgétaires. Mmh. Et je rappelle dans ce cadre-là que le budget de la justice augmente de plus de 20% en 5 ans. Et d'autre part, les moyens d'exercer leur mission dans la sérénité et l'impartialité. Donc cela signifie évidemment que selon la complexité des enquêtes et des procédures, il faut parfois du temps. Mmh. Pour pouvoir avancer dans ces enquêtes et dans ces procédures. C'est le cas pour Mélenchon.
Ouais. Est-ce que vous lirez son livre ? Jean-Luc Mélenchon publie un livre la semaine prochaine, bien sûr, à la veille de son procès en correctionnel.
Honnêtement, si j'ai le temps, peut-être, mais ce n'est pas le premier que j'achèterai.
Alexis Brézé. Patrick Balkany.
Une autre affaire, celle qui concerne Patrick Balkany, qui donc a été condamné vendredi à 4 ans de prison pour fraude fiscale, 10 ans d'inéligibilité, et condamné avec mandat de dépôt à l'audience, c'est-à-dire qu'il est allé directement en prison. Chose qui est assez exceptionnelle, rarissime.
Ce n'est pas exceptionnel, cela arrive.
Pour de la fraude fiscale ?
Oui. Je voudrais là aussi vous dire deux choses, si vous me le permettez, puisque je ne peux pas prendre de position sur l'affaire Balkany en elle-même. Mais je voudrais dire deux choses. Dans les moyens que je peux donner à la justice, je me fixe des priorités. Et parmi ces priorités, il y en a deux qui sont pour moi essentielles. D'une part, la justice des mineurs, et d'autre part, la lutte contre la fraude et contre la corruption. Et donc, dans les moyens supplémentaires de magistrats dont je vais disposer pour le budget 2020, eh bien, c'est sur ces deux priorités-là que je les mettrai. Et je reviens à votre question.
Sur le mandat de dépôt.
Non, mais c'est important, parce que, si vous voulez, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est une priorité pour les magistrats et pour la société, parce que nous savons bien que c'est là que se joue la démocratie. C'est dans la confiance des citoyens. Donc, sur le mandat de dépôt, j'ai regardé un peu les statistiques et je vois qu'en 2016, et les choses n'ont pas beaucoup changé depuis, il y a eu plus de 600 condamnations pour fraude fiscale et il y a eu plus de 20% de peines qui ont été des peines de prison ferme. Donc vous voyez
mais
bien
mais là, la question c'est pas l'exécution mais c'est le mandat de dépôt.
Oui, mais le mandat de dépôt c'est
son avocat dit mais de toute façon il va pas s'enfuir, il a été là toutes les audiences, pourquoi est-ce qu'on le met en prison tout de suite sans attendre l'appel?
Les magistrats sont libres des choix qu'ils font. Et le mandat de dépôt n'est pas une exception.
Mais c'est pas l'objet de votre politique. La réforme que vous avez mise en œuvre, elle est justement dans une détention alternative. C'est-à-dire, on privilégie des modes de détention alternatifs avec, par exemple, le bracelet électronique. Est-ce que dans le cas présent, ça n'aurait pas pu faire l'objet d'un bracelet électronique ?
L'un n'exclut pas l'autre. Je vous le redis, je n'ai pas à prendre position sur ce que les juges ont décidé. En revanche, oui, vous avez raison. Nous souhaitons que les magistrats utilisent toute la gamme des peines qui est à leur disposition, mais c'est un autre débat qui n'a pas nécessaire.
Ils ne le font pas suffisamment, selon vous.
Ils ne le font pas suffisamment parce que ils n'en ont pas la possibilité. Je ne les incrimine pas, mais ils n'en ont pas la possibilité. Et c'est cela que je veux changer.
Adrien Jean.
Il y a eu un commentaire en revanche de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui est un ami de Patrick Balkany, ami d'enfance. Il lui a dit son soutien. Il a dit également qu'il avait de la peine pour Balkany et beaucoup dans sa famille politique ont d'ailleurs rappelé qu'il avait été très largement élu et soutenu par ses électeurs. Est-ce que vous avez de la peine pour un homme qui a été, lui, soutenu par le suffrage universel ?
Non, mais moi, je n'ai pas à avoir de peine ou pas de peine sur cette question-là. Je suis garde des Sceaux, je ne suis pas là. Si vous voulez, ce que dit le président Sarkozy, c'est un sentiment d'humanité. Il est libre d'avoir ce type de réaction-là. Moi, je n'ai pas à avoir ces réactions-là face à des affaires qui sont en cours. Ce que je constate vraiment, c'est que pour nous, la lutte contre la corruption et contre la fraude, c'est une priorité. À tel point que le législateur a, lorsque des affaires de corruption ont lieu, il a mis des circonstances aggravantes sur les peines. C'est-à-dire qu'on considère que pour les personnes dépositaires de l'autorité publique, que pour les élus, que pour les personnes qui sont chargées d'une mission de service public, il peut y avoir une circonstance aggravante qui vient accroître la peine qui est octroyée. Mais pour autant, le magistrat, évidemment, va choisir la peine en adéquation avec la personne qui est devant lui. Et ça, c'est important.
Il était candidat au municipal au mois de mars pour vous, puisqu'il a fait une demande de remise en liberté.
Ah, écoutez, nous verrons ce que...
Vous seriez choqué, Nicole Belloubet, si jamais cet appel, eh bien, il obtient gain de cause, hein, qu'il est libéré, qu'il puisse se présenter à la mairie de Levallois.
Il y aurait quelque chose, il y aurait une forme d'incohérence, évidemment, les électeurs.
Une forme d'incohérence. Est-ce que c'est pour vous contre la morale? Comment vous qualifieriez?
Je ne juge pas en termes de morale, je juge en termes de droit. Enfin, je ne juge pas d'ailleurs en l'occurrence, mais j'apprécie en termes juridiques.
Et il
me semble qu'ayant fait l'objet d'une telle condamnation, ce serait curieux, mais nous avons vu que Mme Balkany elle-même.
Ben voilà, aujourd'hui, c'est son ce qui lui succède par un jeu normal.
La règle de droit s'applique ainsi.
Donc ça vous choque d'un
point
de vue politique?
La règle de droit est telle. On peut trouver que c'est choquant du point de vue politique, mais la règle de droit est celle-là.
Est-ce que vous, du point de vue politique, vous trouvez que c'est choquant?
Je trouve que c'est choquant. Mais comment faire? La règle de droit...
Est-ce qu'il faut la changer, cette règle?
Le législateur choisira.
Mais est-ce que vous souhaitez que l'État s'en emp... que le gouvernement s'en emp...
Je pense que...
Dans ce souci d'exemplarité prôné par le président de la République depuis 2017...
Je pense que le suffrage universel est sans doute la meilleure des sanctions et la plus grande des sanctions. Donc, il appartiendra au suffrage universel de s'exprimer.
Pour revenir à ce que vous dites à l'instant sur les circonstances aggravantes, souvent on dit que les hommes politiques doivent être traités comme tout le monde, ni mieux comme les justiciables normaux, pas plus d'indulgence, mais pas plus sévèrement. Vous dites... Il peut être légitime qu'ils soient traités plus sévèrement parce qu'ils ont un devoir d'exemplarité.
Je dis deux choses. Je dis que, un, le législateur a accru la possibilité de sanction pour les personnes qui ont été élues par qui exercent une mission de service public. Et je dis, deux, que le juge, lorsqu'il va prononcer une condamnation, il prend en compte la situation particulière de la personne, les responsabilités qu'elle peut exercer, cette exemplarité-là.
Voilà, et vous considérez que c'est légitime?
Cela fait partie des possibilités qu'il a que d'apprécier, de mettre dans un contexte.
Mais vous, votre opinion à vous?
Bien, c'est ce que je vous dis, ça fait partie des possibilités qu'a le juge.
Alors, succession d'affaires cette semaine, autre affaire, celle qui touche Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, Adrien Jean.
En termes d'exemplarité et de cohérence, on n'a pas tout à fait compris ce qui s'était passé cette semaine. Il y a une règle qui a été dictée pour les ministres.
Oui.
Lorsqu'ils sont mis en examen, ils quittent le gouvernement. Richard Ferrand n'est certes
une pratique.
Pas ministre.
C'est une pratique.
Qui a été 20 fois rappelée par les chefs de gouvernement. Il est quatrième personnage de l'État, président de l'Assemblée nationale, c'est un poste éminent dans la République. Pourquoi considère-t-on aujourd'hui que cette pratique ne peut pas, ne souhaitons pas qu'elle soit appliquée également au président de l'Assemblée nationale?
Parce que, et cette explication a déjà dû être donnée, mais elle me semble profondément juste, la légitimité d'un ministre n'est pas la même que celle du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un député qui a été élu par nos concitoyens. Puis il a été à nouveau élu par les députés. Donc, il me semble que ce n'est pas la même pratique qui peut s'appliquer à l'un comme à l'autre. Et par ailleurs, mais vous le savez, pour les uns comme pour les autres, pour tous, pendant toute la procédure, pendant toute la durée d'une procédure, la présomption d'innocence...
Il n'y a pas un deux poids, deux mesures, Nicole Belloubet. Franchement, vous entendez...
Entre
les ministres et le président de l'Assemblée nationale. Alors pourquoi maintenant appliquer cela au ministre et pas...
Parce que, monsieur Sportouche, je viens de vous dire, leur légitimité est différente. Moi, j'ai été nommée par le président de la République sur proposition du Premier ministre.
Mais qu'est-ce que ça change,
madame? Ça change que, si vous voulez, mon poste, ma fonction ministérielle est à la disposition du Premier ministre et du président de la République.
Mais ça ne vient pas abîmer la fonction de Richard Ferrand?
C'est pas le cas de Richard Ferrand, qui est élu par nos concitoyens et qui est élu par les députés.
Sans démissionner de son poste de député, il pourrait démissionner du poste de président de l'Assemblée. Parce que ce qui justifie cette jurisprudence, qui de fait n'est pas dans la loi, de démission de son
ministre,
c'est l'exemplarité. C'est difficile d'exercer des fonctions à ce point exposées quand on a une mise en examen.
Pourquoi une mise en examen? Vous le savez fort bien, une mise en examen, c'est une étape de la procédure.
Bien sûr.
C'est une étape de la procédure. À cette étape-là, comme d'ailleurs durant toute la procédure, Toutes les personnes sont présumées innocentes.
Mais vous, c'est une bonne pratique pour les membres du gouvernement? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne pratique pour les membres du gouvernement? Ou est-ce qu'il faudrait y renoncer pour les membres du gouvernement?
Je ne sais pas s'il faut y renoncer, parce que, si vous voulez, encore une fois, ça dépend de l'image que le pouvoir exécutif veut donner de son gouvernement. Donc je ne sais pas s'il faut y renoncer. Je trouve que les réactions sont parfois d'une temporalité excessive. Lorsque je vois ce qui s'est passé pour François de Rugy, il démissionne sous la pression des médias. Je trouve que c'est dommage. Là non plus, ce n'est pas... mon propos ne s'applique pas à l'individu, je trouve à la procédure. Je trouve que c'est dommage parce que, si vous voulez, nous sommes là dans une contrainte temporelle maintenant qui est devenue folle et on ne prend pas le temps de pouvoir présenter des arguments simples.
À la place de Richard Ferrand, vous n'auriez pas démissionné, vous non plus, Nicole Belloubet.
Je n'ai pas à prendre position sur ce que veut... Non, mais je n'ai pas à prendre position sur ce que doit faire Richard Ferrand. Moi, je vous dis, juridiquement, il est dans une situation qui est très particulière.
C'est l'élection. Et moralement, il n'y a pas que... Évidemment, juridiquement, bien sûr.
Moralement, vous n'êtes pas gêné.
Il est présumé innocent. Il dit qu'il veut se défendre. Eh bien,
mais
il le fait.
S'il tire sa légitimité des députés et du suffrage universel, quel besoin y avait-il cette semaine à ce que le président de la République fasse connaître son soutien, que le Premier ministre l'exprime, que tous les ministres, jeudi matin, dans les médias également, disent qu'ils soutenaient le président de l'Assemblée nationale
Besoin ? Il répondait à des questions, j'imagine. Il répondait à des questions.
Ou les ont devancés, dans
de nombreux cas. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, je crois que Richard Ferrand est un très bon président de l'Assemblée nationale. Il est perçu comme tel par les députés. Et d'autre part, vous le savez, il a accompagné le président de la République depuis le début. Il était normal qu'à titre humain, le président de la République lui fasse part de son soutien.
Alexis Brézé.
Gilles Legendre, qui est le président du groupe LAREM à l'Assemblée, a mis en cause Anticor, qui est l'association contre la corruption, qui s'est portée partie civile, notamment contre Richard Ferrand. Qu'est-ce que vous pensez de cette mise en cause? Et qu'est-ce que vous pensez du fait que dans cette association, il y a un certain nombre de magistrats?
Anticor, c'est une association que nous finançons. Parce que, vous le savez, les accusations, elles sont portées soit par les procureurs, soit par des personnes privées, soit par des associations comme Anticor. Là aussi, je pense que c'est un élément de la démocratie que de faire vivre ces associations.
Mais alors, le genre dit que ça pèse sur le fonctionnement normal des institutions, cette association. Et au fond, est-ce qu'un magistrat qui est dans Anticor et qui est appelé à juger, est-ce qu'il n'est pas un peu jugé parti?
Ça dépend des situations dans lesquelles il exerce son rôle dans l'association et dans les procès. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il doit y avoir un départ clair entre une accusation qui est portée par Anticor, qui se porte partie civile, et les personnes concernées.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec le gendre?
Moi, je vous le dis, je pense que Anticor, ça fait partie des éléments de notre démo, Anticor et d'autres associations. Ça fait partie des associations qui font vivre notre démocratie.
Les lanceurs d'alerte, notamment.
Les lanceurs d'alerte. Ouais. Mais encore une fois, elles doivent respecter un certain nombre de règles éthiques claires.
Nicole Belloubet, globalement, ce climat, comment le jugez-vous actuellement? Beaucoup d'affaires politiques au judiciaire. On a l'impression que c'est une sorte de nouvelle guérilla entre magistrats et politiques. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Est-ce que ça vous inquiète?
Je ne pense pas que le mot guérilla soit le mot adapté. Nous avons eu une semaine, je reconnais, qui est porteuse d'un nombre d'affaires assez considérable. Mais pour autant, cette semaine-là, à part les invectives de Jean-Luc Mélenchon, je ne crois pas qu'elle remette en cause le rôle des magistrats, ou je ne crois pas qu'elle vienne ici dire que nous serions dans une instrumentalisation de la justice. Donc non, je ne suis pas inquiète de ce point de vue-là. Et vous savez, je crois profondément que la magistrature joue un rôle en toute impartialité. Elle joue son rôle et c'est important.
Alors, justement, autre question sur cette impartialité, Adrien Gindre.
Autre élément de cette semaine, on a appris le calendrier du procès Fillon. Il se tiendra du 24 février au 11 mars de l'année prochaine. Or, il y a également des élections municipales au mois de mars, les 15 et 22 mars. Oui. Il y a une règle, une pratique, peut-être allez-vous nous dire, on le rappelle, qui est que les membres du gouvernement, par exemple, quelques jours avant les élections, sont soumis au devoir de réserve pour ne pas influencer le scrutin. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ça s'applique également à la justice? Parce qu'un procès d'un ancien Premier ministre, ancien candidat à la présidentielle à quelques jours d'un scrutin.
Non, je ne crois pas. Alors, sinon nous paralyserions toute la vie judiciaire. Non, mais il ne faudrait pas de jugement avant les élections européennes, pas de jugement avant les élections municipales, avant les élections départementales.
8 jours avant les élections, ça peut paraître politiquement un peu énorme, non ?
Non, ce n'est pas énorme. Écoutez, il s'agit d'une... L'affaire Fillon a fait l'objet d'une enquête, d'une procédure qui a été longue. Elle arrive à son terme. Le procès a été calendarisé, audiencé. Je ne vois pas du tout quelle difficulté il y a.
Mais vous ne croyez pas qu'un procès comme le procès Fillon a plus de répercussions potentiellement que le déplacement d'un secrétaire d'État à 3 jours du scrutin, par exemple, qui lui sera empêché?
Mais non, je ne pense pas. La justice suit son cours. Elle ne peut pas être percutée par le calendrier politique en permanence. Cette question s'était déjà posée d'ailleurs au moment des élections présidentielles à propos de François Fillon. Je pense
que... Oui, du coup, c'était instruit avec une grande célérité. Puis il y a eu une phase d'enquête.
Il y a eu une phase d'enquête.
Et tout à coup, il y a des élections et pof, on
juge. Non, écoutez, vraiment, c'est pas sérieux là. Vous n'imaginez pas que les magistrats ont le calendrier des élections et viennent placer le procès juste à ce moment-là. C'est absurde.
On imagine qu'ils l'ont et qu'ils pourraient le placer un autre moment pour éviter...
Non, la justice est indépendante. Elle est indépendante.
Justement, puisque vous parlez d'indépendance, on pose une question sur le parquet. Si on veut que cette justice soit perçue comme totalement indépendante, pourquoi, une bonne fois pour tout dans notre pays, le parquet ne deviendrait-il pas totalement indépendant du pouvoir exécutif, alors que la tutelle existe toujours et que même dans la réforme que vous allez mener, cette indépendance ne va pas être établie définitivement?
Non, la tutelle n'existe pas. Je n'ai pas de tutelle. Les parquetiers ne sont pas mes subordonnés.
Et vous pouvez raisonner des instructions,
dans une ligne,
notamment, enfin sur, par exemple sur les violences conjugales, vous leur dites, point important de la politique. Donc est-ce que vous ne pensez pas que il faut qu'il y ait que le cordon ombilical soit définitivement coupé?
Monsieur Sportouche, je crois deux choses. Je crois qu'il est nécessaire pour que les politiques publiques que nous définissons soient appliquées avec célérité, vraiment beaucoup de conscience et d'approfondissement, je crois qu'il est important que je puisse dire aux différents procureurs quelles sont mes priorités. Vous parlez de la lutte contre les violences faites aux femmes, on pourrait parler de la lutte contre l'homophobie, on pourrait parler de la lutte contre le racisme, de la lutte contre les stupéfiants, etc. Cela, je le dis à mes procureurs, aux procureurs, et je le dis parce que, l'article 20 de la Constitution dit que le gouvernement est responsable des politiques qu'il définit, et je crois que c'est très important. D'autre part, quant à leur nomination, quant à leur carrière, le gouvernement aujourd'hui, moi-même, je fais des propositions. Et je, bien que ce ne soit pas écrit dans la Constitution, ces propositions de nomination sont soumises à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Je le respecte. Et dans la révision constitutionnelle telle que je l'ai récemment présentée en Conseil des ministres, avis conforme et pouvoir de
décision. Je rappelle quand même que l'État a été épinglé sur ce sujet par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est estimée en 2010 que le procureur en France, je cite, n'est pas une autorité judiciaire indépendante.
L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme était un petit peu plus compliqué que cela,
C'était en substance qu'il disait.
Oui, enfin bon. L'affaire était un peu plus compliquée que cela. En tout cas, je vous redis clairement que nous voulons, par la révision constitutionnelle, inscrire l'avis conforme dans la Constitution et donner le pouvoir disciplinaire au Conseil supérieur de la magistrature, ce qui renforcera considérablement les garanties du parquet.
Justement, de la révision constitutionnelle qui n'a pas l'air très bien partie, parce que le Sénat n'a pas l'air très enthousiaste, est-ce que vous feriez quand même...
Il ne faut jamais désespérer.
Non, mais bien sûr, vous gardez espoir, et c'est bien. Mais malgré tout, vous pouvez faire quand même la baisse du nombre de parlementaires et la proportionnelle sans révision. Ça veut dire que ce sera fait?
Non, ce ne sera pas nécessairement fait. Le président de la République et le gouvernement apprécieront le moment venu. Pour le moment, nous sommes absolument fidèles à ce que nous avons dit, c'est-à-dire...
C'est tout ou rien.
C'est-à-dire, d'une part, présenter le projet de la révision constitutionnelle et de la loi organique et de la loi ordinaire qui l'accompagnent. Il y a quelques blocages, moins d'ailleurs sur le texte constitutionnel que sur le texte organique et ordinaire, c'est-à-dire sur ce qui porte sur la diminution du nombre de parlementaires. Je ne pense pas que les écarts soient si importants que nous ne puissions pas parvenir à un accord. Et donc j'espère que c'est par cette voie-là que nous pourrons progresser.
Donc ça sera encore possible d'ici la fin des quinquennats de diminuer le nombre de parlementaires éventuellement et d'instaurer la proportionnelle.
Moi, je l'espère. Après, il faut négocier avec le Sénat, par lequel, évidemment, nous devons passer, si nous voulons, une révision constitutionnelle par la biais du Congrès.
C'est l'heure de la question en plus.
Le Grand Jury, la question en plus.
Madame la ministre, je suis Cécile Marcel, directrice de l'Observatoire international des prisons. Nous avons publié en juin un rapport d'enquête sur une réalité taboue, les violences commises par des agents pénitentiaires sur les détenus. Depuis, des associations et des parlementaires vous ont interpellé à ce sujet sans obtenir de réponse. La sénatrice Esther Benbassa vous a alerté sur les représailles subies par un détenu de Villefranche-sur-Saône qui avait dénoncé ces violences. Que signifie votre silence, Madame la ministre ? Comment comptez-vous traiter le cas de Villefranche ? Et plus globalement, ferez-vous le nécessaire pour mettre un terme à ces pratiques ?
Nicole Belloubet.
Alors, pardonnez-moi, je ne sais pas si j'ai répondu ou pas répondu. Si je ne l'ai pas fait, je le regrette parce que je réponds toujours aux demandes qui me sont faites. Sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire les violences commises par des personnels de surveillance à l'égard des détenus, il y en a parfois. Lorsqu'il y en a, elles sont toujours sanctionnées. Je prends l'exemple, par exemple, de Saint-Martin-de-Ré ou d'autres endroits. Elles sont toujours sanctionnées. Il faut dire aussi que les surveillants pénitentiaires effectuent un travail extrêmement difficile, doivent parfois répondre à des provocations, percevoir la psychologie des personnes détenues. Donc, ils font un travail extrêmement difficile. Mon rôle est évidemment d'être en soutien de ces personnels pénitentiaires. Mais quand il y a des réponses qui ne sont pas proportionnées, il faut absolument qu'elles soient sanctionnées.
Puisqu'on parle de prison, il y a question évidemment toujours des places de prison qui se posent. Le président de la République s'était engagé à un grand programme de construction de places de prison, je crois bien 7000 d'ici 2022 notamment. Oui. Il semblerait que le rythme soit en train de se ralentir parce qu'il y a des économies budgétaires ?
Non, pas du tout. Je suis vraiment désolée.
Prenez votre souffle, il n'y a aucun souci.
C'est pas votre question qui me fait tousser.
Pour moi, c'est vrai.
Non, il n'y a pas d'économie budgétaire. Enfin, plus exactement. Il faut reconnaître quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, construire une prison, c'est difficilement accepté par les élus et par les populations. Alors bien sûr, on pourrait imposer la construction d'une prison à tel endroit, c'est pas le chemin que nous avons choisi, on essaie de dialoguer avec les élus pour pouvoir renforcer l'acceptabilité de l'établissement pénitentiaire. Et au moment où je vous parle, il y a des villes qui ne veulent pas que l'établissement pénitentiaire soit construit là.
Donc du coup,
là.
Le programme prend
Donc
du
retard. Coup, je vais avoir un petit décalage. Sans doute, ça ira-t-il mieux après les élections municipales.
Donc 2000 places seront construites, mais pas tout de suite. Peut-être avec un petit délai
supplémentaire. Ah non, les places seront construites, mais il n'y a aucun doute. Le président s'est engagé à 15 000 places, elles seront construites. Mais elles seront construites sans doute pour le second quinquennat, ce qu'on a toujours annoncé d'ailleurs.
Le second quinquennat d'Emmanuel Macron.
Oui, pourquoi vous n'y croyez pas?
Visiblement, vous nous dites qu'aujourd'hui, il va être candidat.
C'est un souhait, monsieur.
Candidat à sa propre succession.
Et qu'il sera candidat. Juste sur les prisons, est-ce que vous travaillez en ce moment sur des prisons expérimentales tournées vers le travail, avec uniquement un moyen, sa peine serait de travailler en prison? C'est un partenariat qui est notamment fait avec la fondation M6 sur les
absolument,
prisons.
Absolument, nous travaillons à la construction d'au moins deux projets de prison par le travail, de réinsertion par le travail, c'est-à-dire une forme un peu nouvelle de détention où le détenu aurait une liberté de circulation, une plus grande autonomie dans le cadre du périmètre de l'établissement pénitentiaire et où il y aurait un travail avec un certain nombre d'entreprises, et effectivement la Fondation M6 nous aide beaucoup là-dessus, il y aurait un travail avec des entreprises pour à la fois fournir du travail, former les gens, voire peut-être les embaucher en fin de détention.
Merci Nicole Belloubet. Dans quelques instants, la deuxième partie de votre grand jury. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Alexis Brézé du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Une nouvelle journée de mobilisation, un nouveau samedi, était organisée par des gilets jaunes hier à Nantes. Il y a eu encore des incidents, l'apparition de black blocs, des mortiers qui ont été retrouvés par exemple dans des poubelles dissimulées pour pouvoir être utilisés. Visiblement, les arrestations, les condamnations de ces derniers mois n'ont pas suffi à dissuader les manifestants les plus violents. Ça ne vous inquiète pas de savoir que la semaine prochaine, il y a un mot d'ordre au rassemblement qui est lancé pour Paris?
Non, ça ne m'inquiète pas, puisque à la fois le ministre de l'Intérieur prendra les dispositions pour assurer la présence des forces de l'ordre comme il convient qu'elles le soient. Et de mon côté, les magistrats sont en ordre de marche, si je puis dire, pour prendre en charge les personnes qui auraient fait l'objet d'une garde à vue.
Mais ça donne le sentiment d'une certaine impuissance de l'État, c'est-à-dire qu'on a beau arrêter, on a beau déployer des forces de l'ordre, on voit que finalement il se produit quand même des incidents.
Je ne sais pas, je récuse le terme impuissance de l'État, parce que à la fois en termes de maintien de l'ordre public, on voit bien que au-delà des incidents que vous signalez dans beaucoup de lieux, dans d'autres lieux, voire par exemple ce qui s'est passé à Biarritz ou bien ce qui se passait même au mois de mai et de juin, les forces de l'ordre étaient très présentes et arrivaient à juguler les manifestations violentes, puisqu'il ne s'agit que des violences, et que d'autre part, la justice a également tenu son rôle en édictant quelques peines par rapport aux personnes.
C'est quand même la preuve que ce mouvement des Gilets jaunes ne s'est pas éteint, qu'il existe toujours. On a eu beaucoup de ministres qui se sont succédés à votre place, Nicole Belloubet, qui nous ont dit, bon, ben voilà, ça y est, ce mouvement est terminé.
Non, moi, je pense qu'il y a une forme de radicalité dans notre société qui perdure, qui est latente, qui peut ressurgir d'un moment à l'autre. Je ne suis pas naïve en disant, bien voilà, il y a eu des réponses en termes de pouvoir d'achat, il y a eu des réponses en termes de réponses en termes d'acquisition de compétences, de formation, etc. Bref, tout ce qu'a fait le gouvernement, tout est terminé. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a une forme de radicalité qui s'exprime régulièrement et sur laquelle nous devons être extrêmement attentifs.
Alexis Brézé, sur la réforme que vous avez présentée cette semaine, la réforme de la justice des mineurs.
Oui, voilà, réforme que vous avez présentée en Conseil des ministres, une réforme par ordonnance qui prévoit notamment un principe de présomption d'irresponsabilité pour les mineurs en dessous de 13 ans, sauf si le juge en décidait autrement. Oui. Enfin, le principe, ça sera qu'en dessous de 13 ans, finalement, on est irresponsable, ce qui est une sorte d'impunité. Est-ce que le risque...
Non, ce n'est pas du tout une sorte d'impunité.
Alors, je finis juste. Est-ce que le risque, en tout cas, c'est pas que les bandes, les gangs, utilisent de plus en plus des jeunes ou des enfants de moins de 13 ans en se disant, ben, comme ça, ils passent entre les gouttes, c'est bon?
Non, je crois que l'objectif de cette ordonnance, il est très clair. Il est de rendre la justice plus rapidement pour les mineurs qui seraient reconnus coupables. D'autre part, de montrer aux victimes qu'elles obtiennent une réponse, là aussi, plus rapidement. Et donc, ça, c'est l'objectif général. À l'intérieur de cet objectif, nous gardons comme cap le fait qu'un enfant, c'est un enfant. Mmh. Et donc, j'assume la primauté à l'éducatif dans le cadre de cette ordonnance. Mais primauté à l'éducatif ne veut pas dire naïveté. Et donc, nous avons des instruments de réponse plus rapides en termes procéduraux.
Mais donc, vous ne craignez pas que plus en plus d'enfants de moins de 13 ans soient impliqués dans ces faits de violence?
Non, je ne crois pas pour deux raisons. D'abord, parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'y a pas de sanctions pénales prononcées à l'égard des mineurs de moins de 13 ans. C'est-à-dire que sous l'empire de l'ordonnance de 45, il n'y a pas de sanctions pénales prononcées à l'égard des mineurs de moins de 13 ans. Et ce que nous avons fait, c'est-à-dire de dire qu'il y a une présomption de non-discernement en dessous de 13 ans et donc une présomption de discernement au-dessus, en laissant le juge apprécier au cas par cas. C'est-à-dire que s'il y a des faits violents qui ont été commis par un jeune de 12 ans qui a la maturité nécessaire pour comprendre ce dont il s'agit, eh bien, le magistrat pourra aller chercher sa responsabilité pénale. Pour autant, il n'y a pas de sanction pénale en dessous de 13 ans. Mais ce qui ne veut pas dire, juste je finis ça, c'est trop important, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de réponse pour ces jeunes. Ce qui importe pour un jeune de moins de 13 ans, me semble-t-il, c'est pas de le mettre en prison, quand même. Il a moins de 13 ans. On va pas mettre tous les gamins de moins de 13 ans, tous les gamins qui ont dérapé de moins de 13 ans en prison. Sinon, alors je peux faire construire. Alors là, je peux en faire construire des prisons. C'est pas l'objet. Il faut qu'il ait une réponse. C'est-à-dire qu'il soit pris en charge, qu'il soit éloigné du territoire où il a commis son infraction, qu'il soit encadré, qu'il soit vraiment repris en main, et c'est à cela que je m'engage.
Mais en même temps, vous dites priorité à l'éducatif et vous allez créer davantage de centres éducatifs fermés,
oui.
Et les professionnels vous disent, de la jeunesse, disent que c'est le meilleur moyen de les faire retourner à la délinquance parce que ça ne marche pas.
Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Deux raisons. Nous, ce qui m'importe, c'est que quand le juge a un gamin devant lui, jusqu'à 18 ans, c'est qu'il ait une palette de réponses. Cette palette de réponses, elle peut aller de l'interdiction de paraître dans un certain lieu à suivre un stage, un soin pour s'il a des problèmes d'addiction, à aller jusqu'à l'enfermement. L'enfermement, c'est en quartier mineur ou en établissement pour mineurs, c'est-à-dire des établissements de détention, ou bien un centre éducatif fermé. Et il faut que le juge ait cette palette de réponses. Mmh. Deuxième chose, et j'y tiens aussi, il importe que dans ces centres éducatifs fermés, il y ait des sorties progressives. C'est ce que la loi pour la justice a permis de mettre en place.
Juste une petite question, on va en venir à la loi bioéthique, parce que la fin de l'émission approche très vite, malheureusement. Mais sur la violence à l'école, est-ce que vous avez pesé, très franchement, de tout votre poids politique, Nicole Belloubet, pour qu'il n'y ait pas de policiers au sein des établissements dans le plan présenté par Jean-Michel Blanquer récemment? C'est une position que vous avez prise.
Oui, c'est une position qui, pour moi, elle est naturelle et nous la partageons avec Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un policier dans chaque classe, il faut être raisonnable. Mais quand j'étais rectrice d'académie, j'avais sans cesse des contacts avec les autorités de police parce qu'elles doivent être présentes aux abords des établissements. Et quand il y a également des sensibilisations des élèves, les policiers viennent pour expliquer aux élèves ce que fait la police, qu'on peut, etc. Donc tout cela est simple, naturel et facile à comprendre.
Enfin, Christophe Castaner l'avait évoqué juste après les violences qu'il y avait eu. Hein. Donc
Il ne faut pas être caricatural. Il ne doit pas y avoir de policiers en permanence dans un établissement. Mais ils peuvent venir en tant que besoin, bien sûr.
Alors, sur la loi bioéthique, hein, puisqu'elle vient au Parlement dans quelques jours.
Elle était en commission
cette semaine, justement. Alexis Brézé.
Ça fait déjà maintenant quelques temps qu'il y a des discussions qui sont vives et de qualité en commission à l'Assemblée. Oui. Est-ce que vous pensez qu'en séance, ça va se passer finalement dans un climat relativement serein? Est-ce que vous pensez qu'ensuite, dans le pays, ça va se passer dans un climat relativement serein? Ou bien qu'il va y avoir des protestations? On pense à la manif pour tous, à la manifestation du 6 octobre. Comment vous voyez le climat autour de cette affaire?
Alors moi, je ne sens pas un climat extrêmement tendu. Je sens, il me semble, que dans la société, il y a globalement, notamment sur la question de la PMA pour les couples de femmes, il y a une maturité qui s'est faite sur cette question pour l'accepter. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Je ne dis pas qu'ensuite, il n'y a pas des nuances dans l'application, dans le détail de cette position générale. Mais je crois aujourd'hui qu'il y a une forme d'acceptation générale pour reconnaître qu'un couple de femmes peut très bien avoir et éduquer un enfant dans des conditions tout à fait optimales pour cet enfant.
On va venir dans le détail, Adrien Jean.
Et donc, je ne crains pas le débat, je ne crains pas la violence du débat, même si j'ai pu percevoir en commission qu'il y avait des points évidemment difficiles.
Adrien Jean.
Des politiques qui ne sont pas parlementaires à l'Assemblée nationale, je pense à François-Xavier Bellamy, qui est député européen, mais qui s'est exprimé pas plus tard que ce matin. Il craint que la PMA soit notre malédiction. Il le justifie en disant qu'il y a une sorte de fuite en avant perpétuelle dans la satisfaction et la frustration.
Je ne crois pas ni que ce soit une malédiction, surtout pas. C'est vraiment un terme curieux que celui-là, mais bon, je lui en laisse la responsabilité. Moi, je pense au contraire que c'est une chance et une chance qui correspond à ce que vivent aujourd'hui vraiment des couples de femmes dans notre pays et qui, pour pouvoir porter et élever cet enfant, sont allés subir des PMA à l'étranger. Je trouve dommage que nous ne refusions ce qui est une avancée, ce qui constitue des droits nouveaux pour les femmes.
Alors sur la PMA, alors plusieurs questions se posent. Hein. Notamment, en fait, on se pose la question de savoir pourquoi les couples de femmes mariées devront aller devant un notaire pour attester de cette PMA et non pas en mairie, par exemple. Est-ce que ce n'est pas une différenciation injustifiée?
Non, je ne crois pas. Nous avons eu deux préoccupations, je parle du point de vue juridique dans cette loi, je ne parle pas des aspects médicaux. Du point de vue juridique, nous avons eu deux préoccupations, à la fois le souci d'ouvrir des droits nouveaux pour les femmes et de placer ces femmes à égalité. Les deux mères seront placées à égalité. Et donc, il importait pour cela qu'elles puissent reconnaître l'enfant à venir par un acte précis, cet acte qui, du coup, les place à égalité en tant que mère. Premier élément. Et d'autre part, nous avons également eu le souci de la simplicité. Vous savez que tout couple qui fait une PMA doit aller devant notaire pour consentir à la PMA par le même rendez-vous, si je puis dire, par le même acte. Pas par le même acte, il y aura deux papiers différents, mais enfin, par la même circonstance, elles feront cette reconnaissance.
Vous avez eu une phrase en commission qui a fait beaucoup parler, je la cite, « Ce n'est pas l'accouchement qui fait la filiation », avez-vous dit Nicole Belloubet, ce qui pour certains, signifie une ouverture possible à la GPA, la gestation la gestation pour autrui.
L'accouchement fait la mère, très clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est, c'est même vraiment la palissade. L'accouchement fait la mère. Et évidemment, la femme qui accouche sera mère. C'est bien cela qui est important. Elle sera mère à égalité avec l'autre mère du fait de la reconnaissance conjointe. Dire ce que prétend l'opposition, c'est vraiment chercher faire monter une polémique qui n'a pas lieu d'être. Parce que, je le redis, ce que nous voulons, c'est l'égalité entre les femmes qui vont devenir mères de cet enfant. Et bien sûr, les personnes qui ont relevé cette phrase ont omis de dire que dans la filiation, l'accouchement, dans l'établissement de la filiation, l'accouchement sera la condition indispensable.
Adrien Gendre.
On a bien compris que la position officielle du président de la République, pendant la campagne et encore aujourd'hui, c'était de dire que la France n'ira pas vers la gestation pour autrui. On a compris
non
aussi
mais officiel, il n'y a pas de officiel et officieux.
Finis juste, et comme ça vous pourrez... on a compris aussi que certains membres de votre majorité, y compris des membres du gouvernement, n'y étaient pas complètement hostiles. À cette même place, il y a quelques mois, Muriel Pénicaud nous a dit que la France n'était pas mûre, mais elle parlait d'une question de maturation pour que la gestation pour autrui puisse voir le jour. Et cette semaine, il y a eu un trouble autour d'une circulaire que vous avez prévu de prendre à l'issue d'une décision de la Cour de cassation. Si cette circulaire ne change rien, pourquoi est-il nécessaire de la prendre? Et est-ce que forcément vous nous dites non, à aucun moment on ne pourra faire un pas?
Je dis les choses en trois temps. D'abord, la GPA reste en France un interdit. C'est contraire à nos principes juridiques, c'est contraire à nos principes éthiques.
Et doit le rester ou pas forcément ?
C'est pas moi qui le dis,
monsieur. Oui, non, mais ça,
c'est vous.
Oui.
Je ne le dis pas, c'est vous qui rajoutez à ce stade. La GPA reste un interdit.
Mais doit-elle
je peux finir.
Doit-elle le rester ?
La GPA reste un interdit, premier point. Donc, deuxième point, comme nous considérons que les enfants qui sont nés par GPA dans des pays où cette pratique est autorisée, ces enfants-là ne peuvent pas rester sans filiation. C'est là aussi une conséquence à la fois du bon sens et en même temps une exigence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc cette filiation, nous l'établissons pour le père, pour le père biologique, par la transcription directe de l'acte d'état civil, et pour le parent, soit une femme, soit un homme, pour l'autre parent, c'est l'adoption. La Cour européenne des droits de l'homme a dit que la manière dont la France pratiquait était tout à fait conforme à la marge de manœuvre qui était laissée à chaque État pour régir ce type de situation. Et donc, là, comme nous avons cet avis de la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation qui va devoir se prononcer à nouveau dans une affaire particulière, nous allons ensuite, mes services vont ensuite édicter une circulaire qui va reprendre cet état de droit.
Mais elle changera quoi ?
Elle ne changera pas ce que je vous dis. Mais elle aura pour objectif, mais elle aura pour objectif d'uniformiser les pratiques, aussi bien à l'égard des officiers d'état civil et à l'égard également des consulats à l'étranger pour que nous puissions obtenir les actes d'état civil lorsque cela est nécessaire.
Nicole Belloubet, est-ce que vous, personnellement, en tant que citoyenne, vous êtes contre les mères porteuses? Est-ce qu'il y a dans votre gouvernement, et il y en a aussi certainement parmi, vos proches, qui ont peut-être eu recours à la GPA? Je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce le cas?
Dans mes proches, mes proches, oui. Oui, il y a des.
Alors, est-ce que vous, à titre personnel, vous trouvez que c'est un acte
condamnable? Je n'y suis pas favorable.
Parfait. Nous passons à question express. Ou alors une petite question d'Alexis.
Une question juridique, c'est que, vous nous l'avez dit, on va créer à côté de la filiation biologique une filiation d'intention, qui sera celle aujourd'hui de deux femmes. Comment juridiquement fera-t-on quand deux hommes auront la même intention? Comment juridiquement...
Le principe d'égalité ne joue pas. Le principe d'égalité ne joue pas. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État le rappelle.
Vous êtes sûr que le Conseil constitutionnel...
Absolument certaine.
Qu'est-ce qui vous fait
dire ça? Au regard de la procréation, les couples d'hommes, les couples de femmes et les couples mixtes ne sont pas dans la même situation.
Au regard de l'intention, c'est la même chose.
Mais nous parlons de procréation, là. Ils ne sont pas dans la même situation. Le principe d'égalité ne joue pas. Et par ailleurs, comme je vous l'ai dit à l'instant, en réponse à votre question, l'accouchement sera une condition indispensable de l'établissement de la filiation dans un couple d'hommes. Ça n'est pas possible.
C'est l'heure de questions express.
Le grand jury, questions express.
Pour ou contre Nicole Belloubet, accorder l'asile au lanceur d'alerte Edward Snowden qui le réclame à la France? Pour ou contre Nicole Belloubet?
Ah oui, d'accord, pour.
Pour ou contre la réforme de l'aide médicale d'État pour la restreindre?
Il faut vraiment que je ne réponde que par pour.
Ben oui, parce que là, pour le coup, on attend de vous une réponse tranchée.
Pour la revoir.
Pour la revoir. Pour ou contre l'interdiction du livre de Tariq Ramadan?
ça a été jugé contre.
Mmh. Donc vous êtes... Ben non, la parution, oui, en effet, a été autorisée.
Oui, donc,
contre l'interdiction.
D'accord.
Contre l'interdiction.
Pour ou contre l'arrêt des matchs de foot en cas d'insulte homophobe?
Mais vous me posez... Bon, juste une parenthèse, je vais vous répondre. Je suis pour, mais pas systématiquement. Vous me posez des questions, alors c'est peut-être dans mon tempérament, mais moi j'ai toujours du mal à répondre pour ou contre.
Sauf que parfois les Français attendent des réponses claires.
Sauf si vous me demandiez pour ou contre le chocolat, et encore,
Ben oui, mais parfois, Nicole Belloubet, on attendait. Alors sur cette question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrêt des matchs en cas d'insulte homophobe?
Pour, par parenthèse, tout dépend d'une question de proportionnalité.
Et enfin, pour ou contre les arrêtés municipaux anti-pesticides?
Contre, parce qu'il faut rester dans le cadre de la loi.
Alors, on va revenir sur la réforme de l'aide médicale d'État quand même en quelques mots pour vous laisser la possibilité d'aller plus loin, puisque c'est une réforme envisagée par le gouvernement. L'est-elle d'envisager cette réforme de l'AME à destination des migrants, notamment, qui viennent dans notre pays, qui n'ont pas de papier et qui ont recours, dans une certaine mesure, aux soins gratuitement? Est-ce que le gouvernement envisage de la modifier?
Alors, moi, je crois qu'il faut rester fidèle à nos principes forts, c'est-à-dire qu'en matière d'immigration, nous devons impérativement accueillir les demandeurs d'asile. Je le dis souvent parce que je trouve que c'est une des plus belles phrases de notre Constitution. Tout homme persécuté à raison de son action en faveur des libertés a droit d'asile sur les territoires de la République. Dans ce cadre-là, quand l'asile a été accordé, la question ne se pose pas. Et évidemment, il faut que nous puissions donner aussi bien toute l'aide médicale que toutes les capacités d'insertion.
Mais il faut la restreindre.
Alors ensuite, il faut éviter, me semble-t-il, que les personnes viennent en France, les personnes qui ne sont pas des demandeurs d'asile, ne viennent en France que pour des raisons strictement médicales.
Mais c'est le cas ou pas? On voit plein d'un fox là-dessus.
Une chose qui est tout à fait juste, c'est que dans notre pays, le nombre de migrants augmente de manière tout à fait considérable. Nous avons un devoir d'accueil, je le redis ici clairement, et il ne saurait être question, sans renier ce devoir d'accueil, il ne saurait être question de diminuer drastiquement. Mais il faut vérifier pourquoi nous sommes un des pays qui accueille.
Vous allez porter cette parole. C'est vrai que vous avez dit notamment dans un journal récemment que la cause des migrants aussi, en tant que femme de gauche, était une cause qui vous tenait à cœur. Est-ce que vous porterez cette voix-là? Parce qu'on entend dans le gouvernement d'autres sons de cloche. Le président de la République lui-même serait
pour. Très clairement, si vous voulez.
Vraiment, les restrictions soient fortes.
Je suis incroyablement heurtée et blessée par le nombre de migrants qui meurent en Méditerranée, comme le sont beaucoup de gens. Ça n'est pas possible. L'Europe doit réagir par rapport à cela. Mais pour autant, il faut que nous ayons, d'ailleurs au niveau européen, des critères qui soient partagés, des critères qui soient clairs. C'est pour moi, je crois en tout cas, l'une des priorités de l'Europe.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Nicole Belloubet. Alors il y a quelques minutes, vous avez déclaré en répondant à une question, mes procureurs, et vous êtes tout de suite reprise dans la foulée, il faut le préciser. L'effet a été immédiat sur Twitter, Ludovic, Anthony, Stéphano et d'autres internautes ont relevé vos propos. Est-ce que ce lapsus n'est pas justement révélateur du lien qu'il y a entre vous et les magistrats?
Absolument pas. Je le redis ici clairement, très clairement, je n'adresse aux procureurs que des instructions générales, en aucun cas des instructions individuelles, et je crois que c'est le cas depuis 1993, et je crois que c'est cela qui est tout à fait essentiel et important. Je les réunis souvent, soit la conférence des procureurs, soit l'ensemble des procureurs, pour leur exposer les grandes lignes de ces politiques pénales générales. Mais jamais, jamais, je ne les appelle sur des questions.
Madame Belloubet, dit Adrien Quatennens il y a quelques minutes, peut faire des incantations. Le parquet n'est pas une juridiction indépendante, donc député des Insoumis. La Cour européenne des droits de l'homme l'a rappelé à plusieurs reprises. Voilà ce que vient de dire Adrien Quatennens.
Mais ce que dit Adrien Quatennens, c'est faux. Ce qu'il dit est totalement faux. Et d'ailleurs, honnêtement, concrètement, comment imagineriez-vous que je fasse pour donner des instructions aux procureurs? Je les appellerai en leur disant, alors dis donc, dans l'affaire X, il faut faire ceci.
Mais on a vu que dans l'affaire Leguet, par exemple, à Nice, le procureur, dans l'affaire Leguet à Nice, cette femme qui avait été renversée aux charges de police, avait devancé d'éventuelles instructions, en l'occurrence, pour ne pas contredire le président de la République qu'il avait choisi.
C'est aberrant. C'est aberrant, vraiment. Vous le savez très bien, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Le président de la République était lui-même extrêmement choqué. de cette situation-là, il est évident qu'aucun procureur n'a à présumer ce que peut penser le président de la République ou le garde des Sceaux. C'est invraisemblable.
Marie-Pierre Haddad, autre question.
Oui, autre déclaration qui a fait réagir en direct pendant cette émission. Vous avez indiqué avoir régulé votre situation sur votre déclaration de patrimoine. Et vous avez dit avoir oublié de déclarer donc une maison et deux appartements. Mais là encore, les internautes n'ont pas compris du tout votre réponse. Dominique réagit en direct. Comment faire confiance à quelqu'un qui oublie de déclarer ses biens, écrit-il. Et c'est à peu près le même commentaire qui revient souvent. Pareil pour Jean-Claude et Marcel, ça leur paraît complètement irréel. Comment est-ce qu'on peut omettre de déclarer une maison et deux appartements ?
Parce que dans une déclaration de patrimoine qu'on fait devant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, il y a beaucoup de choses à remplir. Et comme ces biens-là n'étaient pas sous le même régime que les autres, je les ai omis, alors que je l'avais fait dans les mêmes déclarations de patrimoine antérieurement. Il n'y avait donc aucune intention de fraude, ce qu'a reconnu la Haute Autorité.
Autre question, Marie-Pierre, des auditeurs et téléspectateurs.
Oui, alors vendredi, c'était la grande grève dans les transports et Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a été interrogée sur comment est-ce qu'elle comptait se rendre à son travail. Et donc, elle a répondu qu'elle s'y rendrait, je cite, en voiture de fonction et, je cite toujours, qu'elle serait de tout cœur avec les Parisiens. Alors, évidemment, la réaction n'a pas du tout été bien interprétée par les internautes. Pour Mia, c'est le degré zéro de la communication. Pour Hervé, c'est pitoyable. Et Olivier, lui, s'étonne que Sibeth Ndiaye ne mesure pas la portée de ce qu'elle dit. Est-ce que pour vous, cette phrase de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, c'est une réponse franche ou alors c'est une maladresse ?
Je crois que Sibeth a voulu dire clairement ce qu'elle faisait. Elle n'a pas voulu mentir. Il est vrai que les ministres bénéficient de voitures de fonction, donc c'est ce qu'elle a souhaité signifier. Pour ma part, j'habite sur le lieu où je travaille parce que je me couche tard, je me lève très tôt, et donc j'ai fait ce choix-là.
Vous craignez que cette réforme des retraites ne donne lieu à d'autres grèves et que le gouvernement soit obligé de reculer ?
De reculer, je ne crois pas. Je suis sûre que non. Puisque le Premier ministre a fait état d'une force tranquille. Il y aura évidemment des grèves, puisque vous le savez, lundi, il y a déjà quelques mouvements de grève, notamment
chez les avocats.
Les avocats, oui. Absolument, oui. Donc il y a des mouvements de grève qui sont annoncés. Pour autant, la concertation sur chaque situation, sur chaque profession est très ouverte. Et donc je ne crois pas que nous serons conduits à renoncer, parce que nous nous donnons le temps pour mettre en place cette
réforme. Donc cette réforme des retraites ne sera pas pour le second quinquennat d'Emmanuel Macron, mais pour le premier quinquennat.
Absolument.
Ce second quinquennat que vous souhaitez visiblement, vous nous l'avez dit. Absolument. Merci Nicole Belloubet, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.
Merci.
Avec RTL.
Vous écoutez RTL, il est 13h. Les informations, Alexandre de Saint-Aignan.
Des accusations indignes, absurdes. La réaction de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, après les propos de Jean-Luc Mélenchon qui dénonce la violation du secret de l'instruction dans l'affaire des perquisitions l'an dernier. Il sera jugé la semaine prochaine pour les incidents survenus lors de ces perquisitions à son domicile.